novembre, les débordements ont eu lieu après une marche blanche. Cette manifestation était organisée par les proches de Jordi Kazavoubou, un jeune braqueur abattu alors qu'il tentait de voler un bijoutier. En réaction, un groupe Facebook a été créé. Le groupe Vigie protestait contre l'organisation d'une marche blanche et contre les violences qui ont suivi. Ce groupe a cependant affiché des opinions populistes proches de l'extrême droite. Ces événements contribuent habituellement à renforcer les stéréotypes déjà présents dans notre société. Elias, belge dont les parents sont arrivés du Maroc et étudiant en sciences politiques, nous donne sa vision des choses.
Il y a des bons et des mauvais partout. C'est à cause de d'autres personnes qui sont de la même origine que nous, ou qui, on va dire, pour être un petit peu péjoratif, foutent la merde dehors, que nous, on est jugés par la même occasion. Et je trouve ça un peu triste que les gens font des stéréotypes et qui prennent un peu tout le monde dans le même sac.
Notre témoin a-t-il déjà été victime de discrimination à titre personnel ?
Enfin, en général, avec l'État, on va dire avec la police, l'école, différentes institutions, que ce soit intérim ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément ressenti de la discrimination, directe en tout cas, mais il y a des petites choses qui pourraient laisser croire que c'est de la discrimination.
Son ami Issam, issu lui de la troisième génération d'immigration marocaine, a connu un exemple récent de discrimination.
L'année dernière, j'ai fait un séjour linguistique à l'étranger. J'ai eu droit à une bourse et il m'a été demandé de rembourser une partie de cette bourse, alors que d'autres personnes étaient dans un cas plus critique que le mien, donc qui avaient moins appris la langue étant donné que c'était le but de cette année linguistique. Et qui ne se sont pas vus demander le remboursement de cette bourse, alors que moi, oui. Et plusieurs de mes camarades qui sont aussi de la même origine que moi.
Ce serait même pire pour certains de ses amis.
Ben, sinon, à part ça, dans la vie de tous les jours, comme je suis pas trop typé, ça va. Mais j'ai des amis qui, voilà, ils sont un peu plus typés. Je vois parfois qu'ils ont des problèmes, ne serait-ce qu'avec la police, par exemple. Alors que, voilà, ils sont comme moi, étudiants, ils travaillent, ils sont intégrés, donc voilà, y a, c'est juste un délit de sale gueule en fait.
Cette perception seule, est-elle suffisante pour parler de discrimination ? Quelle est la part de subjectivité et d'éléments objectifs dans ce genre de situation ? Jacinthe Mazzocchetti, anthropologue à l'UCL, nous répond.
C'est compliqué parce que c'est un espèce de cercle, de système en fait. Donc il y a une part d'imaginaire et puis il y a une part de fait, les uns venant renforcer les autres.
Elle nous parle aussi d'une enquête récente dont les résultats sont plutôt édifiants.
En Belgique, il y a une étude récente en 2010 de Schoenwar. Et cette étude, elle met en évidence que les personnes congolaises en Belgique ont un taux d'instruction plus élevé que la moyenne belge. Donc ça, c'est quand même assez intéressant déjà. Donc il y en a plus qui ont des diplômes du supérieur, etc. Mmh. Mais un taux d'emploi bien moindre. Et les emplois dans lesquels ces personnes sont correspondent très peu aux diplômes qu'elles ont obtenus.
Discriminer les gens selon leur couleur de peau, c'est la définition type du racisme. Comment Issam explique-t-il cette dérive ?
On a peur de l'étranger. C'est ça, pour moi, c'est ça le racisme. C'est une peur de l'autre, c'est une peur de l'inconnu.
D'un point de vue plus psychologique, comment les individus vivent-ils la discrimination ? Réponse avec Assad Azi, professeur de psychologie sociale à l'ULB.
Les gens remarquent qu'ils ne peuvent rien faire, mais pour conserver leur estime de soi, alors ils nient la présence de la discrimination. Donc c'est une manière de se protéger, mais qui a un objectif, en fait, simplement personnel, mais d'un point de vue de la collectivité, ça ressemble un petit peu à la dépression au niveau individuel. Ça veut dire qu'on accepte notre sort, mais en niant qu'on est victime, parce qu'en vérité, on ne peut rien faire vis-à-vis de ça.
Avec ma gueule de métèque. Avec ma gueule de métèque.
Nous avons rencontré Olivia Capetta, éducatrice à la maison de jeunes XLJ. D'après elle, la responsabilité serait plutôt collective.
Donc il faut jongler avec tout ça. Et je pense que oui, la politique est fautive en partie. Les jeunes sont fautifs en partie. Et l'éducation aussi. Et il faut jongler avec tout ça. Mais il y a un grand manque de communication.
Monsieur Azzi nous explique pourquoi ces stéréotypes se construisent les uns par rapport aux autres.
Lorsqu'on développe des stéréotypes négatifs de l'autre, c'est pour nous peindre d'une manière positive à nous-mêmes. Et donc chaque fois que quelqu'un va développer un stéréotype positif de lui-même, c'est vis-à-vis d'un stéréotype négatif de l'autre. Et en général, le contraste est fait sur des dimensions culturelles, religieuses, etc., valeurs surtout, sur des dimensions de valeurs.
En tant qu'éducatrice, comment Olivia Capetta perçoit la situation sur le terrain ?
C'est quelque chose de plus possible. Et il y a la stigmatisation qui va du coup des deux côtés. Autant les flics à un jeune de 15 ans qui en plus a l'air un peu rebeu ou machin, qui est en training, forcément c'est problématique. Et d'un autre côté, le gamin qui est en training se dit pourquoi je ne peux plus mettre mon training ? Je ne peux plus mettre une capuche pour aller manifester, même s'il fait froid. Et voilà, et il y a une incompréhension totale des deux côtés qui fait qu'il y a une guérilla froide qui s'est instaurée. Ça, c'est clair et net.
Pour empêcher qu'un jeune parte à la dérive, deux représentants traditionnels de l'autorité ont leur rôle à jouer. Or, les parents et l'école semblent parfois impuissants face à certaines situations.
En travaillant, que ce soit pour des maisons de jeunes ou autres associations, on se retrouve souvent devant la problématique des parents qui, effectivement, sont totalement perdus aussi par rapport au système ici. Vraiment perdus.
Et l'école dans tout ça ?
Moi, je pars du principe qu'il faut une réforme profonde, radicale, et je le mets en fluo, de l'institution scolaire. Pour moi, c'est impératif. Les gamins ne se mélangent pas, ça crée un fossé énorme, que ce soit entre les classes sociales ou que ce soit entre les langues. Vous avez des écoles néerlandophones, des écoles francophones. Il y a extrêmement peu d'écoles où il y a les deux.
Madame Mazzocchetti a mené une étude sur la jeunesse des quartiers nord-ouest de Bruxelles. Elle constate aussi une ethnisation progressive de l'école et veut rappeler sa mission principale.
Il y a beaucoup d'espoir au départ qui est mis sur l'école et sur les possibilités d'ascension sociale et d'insertion que l'école devrait permettre. Et puis il y a beaucoup de désespérance du constat que pour beaucoup ça ne marche pas.
La question des moyens semble toujours cruciale dans le domaine de l'enseignement. Et en période de crise économique, ce n'est peut-être plus une priorité budgétaire. Jacinthe Mazzocchetti insiste sur le fait que c'est une question de choix politique.
Les choix politiques sont plutôt du côté du sécuritaire. Et le sécuritaire, ça coûte très cher. Et ce n'est pas forcément très effectif au niveau des résultats. Et donc ça reste quand même de l'ordre du choix. Il y a énormément de moyens qui sont mis dans le sécuritaire, que ce soit par rapport à la petite délinquance des jeunes de manière générale ou par rapport à la question migratoire. Ça coûte très cher de se protéger, de se barricader, etc. Ça coûte beaucoup plus cher d'enfermer un jeune que de payer un éducateur de rue.
Enfin, tous nos intervenants ont pointé un responsable en particulier, les médias.
Je pense que toutes ces idées, tous ces stéréotypes, tous ces préjugés, ben, ils sont véhiculés par les médias, ça c'est sûr et certain. Tu peux regarder le journal télévisé à n'importe quelle heure. Si tu vois pas parler d'un arabe ou enfin que ça soit en Belgique ou des pays arabes ou un terroriste qui est arabe ou un truc dans le genre, c'est que c'est vraiment rare qu'on n'entend plus parler ces derniers temps.
On dénonce que quand les gens font du bruit et cassent. Je pense que les médias ont un rôle à jouer et aussi que les gens devraient plus être éduqués à ne pas gober tout ce qu'on leur dit en fait.
Il y a d'abord le jeune en soi, qui n'est pas trop bien vu, voilà. Puis il y a le jeune précaire, qui est encore un peu moins bien vu, issu de tel quartier, et puis issu des migrations. Donc tac, 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 ça se cumule. Et ça, c'est vraiment le prototype de la nouvelle classe dangereuse, quoi, du bouc émissaire. Et cette image-là, elle est aussi alimentée par, alors pas tous les médias, mais une partie des médias, une certaine presse qui, ben voilà, met en évidence la petite délinquance plutôt que les grands faits de délinquance qui souvent n'ont pas grand-chose à voir ni avec les jeunes ni avec les migrants.
Les médias mettent l'accent sur l'appartenance de certains criminels. Et peut-être c'est dû à un biais dans l'appréhension de suspects, mais aussi à des biais dans le jugement que des juges font concernant la culpabilité, qui fait qu'on trouve beaucoup plus de personnes d'origine immigrée, maghrébine notamment, dans les cellules proportionnellement à leur population par rapport à des personnes d'origine belge.
Donc malheureusement, au stade où on en est, au niveau des médias qui sont clairement manipulateurs et sectaires selon certains faits. Ils disent ce qu'ils ont envie et ne disent pas ce qu'ils ont envie aussi. Je n'ai plus aucune confiance clairement en ce qu'ils disent.
On le constate face à tous ces éléments, la problématique des stéréotypes reste complexe. Il en va finalement de la responsabilité de chacun de faire un effort, d'apprendre à connaître l'autre en évitant de passer par les clichés et autres simplifications.